Une vie, une œuvre, Théodore Monod, 1902, Rouen, 2000, Versailles. Petit dernier d'une famille de quatre enfants, Théodore Monod grandit dans l'admiration d'un père pasteur, profondément engagé dans une vision spirituelle et sociale. Impressionné enfant par sa visite au Jardin des Plantes, il en retire une compassion infinie pour le monde animal. Après l'école alsacienne, il entre au Muséum national d'histoire naturelle et découvre les randonnées à dos de dromadaire. Il y gagne une attraction absolue pour le désert. Il épouse Olga Pikova et s'installe avec elle en 1938 à Dakar. Après une mobilisation qui le conduit au Tchad, il produit pour Radio Dakar des chroniques radiophoniques anti-nazis. Après la guerre, il reprend au Sahara ses activités d'explorateur. Anti-guerre, torture, corrida, il est aussi un militant. C'est en 1989 que la diffusion du film de Karel Prokop, Le vieil homme et le désert, lui vaut d'être connu du grand public. Françoise Estep signe, avec Lionel Quentin, Une vie, une œuvre, Théodore Monod.
Ça y est, en avant. Inscrit l'heure du départ. 8h37.
Quelle heure ?
Moi, 8h37. 8h37. Départ. Voilà, maintenant on va marcher. Jusqu'à ce qu'on s'arrête. Allez, allez, en avant, en avant. Mère. En avant.
Ce qui était étonnant, c'est qu'il était toujours prêt à partir.
Jean-Claude Nouette.
Et il nous a envoyé une petite carte à mon épouse et à moi, deux ou trois jours avant de partir. Et c'était deux ou trois jours avant qu'il soit frappé de son accident vasculaire. Et il nous a envoyé une petite carte avec une photographie d'une citadelle du pré-désert. C'est là que mes quatre chameaux m'attendent. Le 20 décembre 2000, le Méharé, ce qui sera sans doute, c'est son écriture, hein, la Méharé qui sera sans doute la dernière de ma vie. Il va falloir tout de même, un jour, se résigner à devenir raisonnable. Là, il avait 98 ans, et il allait partir pour une expédition encore dans le désert. Alors, il terminait par quelque chose qu'il n'a jamais fait, c'est être raisonnable. Il n'a jamais été raisonnable.
C'est un être vraiment singulier et pluriel.
Ambroise Monod.
Et moins un exemple qu'une exception. Exemple, ce serait à suivre. Exception, on se contente de l'admirer ou de l'aimer tel quel. Oui, je crois que c'est ça, c'est le propre de ces naturalistes du XVIIIe siècle aussi, qui étaient encyclopédistes par eux-mêmes.
Théodore Monod, quel naturaliste !
Philippe Taquet.
Il fut avec talent tout à la fois zoologiste, bien sûr, mais dans la zoologie, il a été malacologiste, les coquillages, carcinologiste, les crabes, arachnologue, les araignées, entomologiste, ichtyologiste, les poissons, batracologue, les grenouilles, herpétologue, les reptiles, mammalogiste, ornithologiste, mais aussi botaniste, minéralogiste, géologue, géographe, océanographe, climatologue, archéologue, préhistorien, paléontologue, spécialiste des pêches et spécialiste des déserts, historien des sciences, tout en se livrant, dans le même temps, à de multiples travaux d'ethnologie, de linguistique, d'étymologie et d'histoire. Voilà. Non, c'est... Oui, il a 700 mémoires et articles au cours de sa vie, ce qui est considérable. Je me souviens quand il m'a amené, c'était des numulites récoltées au pied des pyramides en Égypte. Il m'a amené un petit tube, c'était le 19 000e échantillon pour le déposer dans les collections du laboratoire de paléontologie. Oui. Ah oui, pour ça, il était très généreux, souhaitant partager, au fond, ses découvertes et les mettre en valeur ou les valoriser. Hein.
Pour vous, Isabelle Jarry, Théodore Monod est un savant en fait, du 19e.
Disons que c'est l'héritier d'une certaine forme de science qui a connu son apogée au 19e. Théodore disait lui-même « je suis le dernier naturaliste ». Rien que le mot « naturaliste », c'est un mot qu'on n'emploie plus tellement aujourd'hui. Et c'est vrai que ça vient du siècle des Lumières, hein, où on a entrepris de non seulement découvrir le monde, mais de l'inventorier, de le décrire et de se l'approprier aussi, hein, bien sûr. Donc Théodore Monod est vraiment un zoologiste, puisqu'au départ il est zoologiste, même si ça s'est beaucoup élargi à des tas d'autres domaines comme la botanique, la géologie, la géographie, etc. Donc c'est un zoologiste à l'ancienne, donc formé au muséum, au jardin des plantes, dans les années 20, hein, puisqu'étant né en 1902, il a dû passer sa thèse en 26, quelque chose comme ça. Donc avec encore cette idée de l'inventaire scientifique du monde.
Le muséum, c'était sa maison. Il y était entré pour la première fois à l'âge de 5 ans et il dit qu'il ne l'a jamais quitté réellement après. J'avais dit dans un des hommages qui lui a été rendu après sa mort que, en effet, il était le seul de son espèce, très original, le seul à brasser autant de domaines des sciences de la nature. Et à ce titre, le seul de son espèce, il était monospécifique. J'ai fait évidemment un jeu de mots qui a eu quelques succès.
En tant qu'explorateur, il a en effet participé à la toute fin de l'exploration. Hein. Il restait encore quelques endroits du monde qui n'avaient pas été explorés au XXe siècle, mais plus tant que ça en réalité. Et il fallait vraiment aller dans des coins très inaccessibles, comme peut l'être le Sahara, pour trouver des blancs sur la carte. Et c'est ces blancs que Théodore s'est attaché à combler.
J'ai chaussé l'étrier des guerriers foulbés, en cuivre, et si petit qu'on n'y peut poser que le gros orteil. Et l'étrier Kotoko, large comme une pelle à charbon, qui ferraille dans les buissons et dont langue aiguisée sert d'éperon. Mais j'ai aussi marché à pied. J'ai navigué sur la mer houleuse, où passent lentement les ombrelles pulsatiles des méduses et les lourdes tortues océaniques couvertes de coquillages. Sur les eaux noires et ombreuses et funèbres des rivières de la forêt vierge. Et sur les eaux vertes et ensoleillées des fleuves soudanais qui tordent le ruban de leurs méandres à travers l'immensité des savanes où, dans les mimosas, s'enfuit l'antilope.
Alors, les préparatifs, la technique, oui, il faut savoir un certain nombre de choses.
Théodore Monod.
D'abord, il faut définir un équipage. Combien de chameaux, combien de personnes. La formule que j'ai adoptée plusieurs fois, c'est 5 chameaux et 3 personnes, 2 bédouins et moi. 5 chameaux, c'est-à-dire 3 montures et 2 chameaux de bas.
Jean-Marc Duroux.
Ces circuits sahariens et ces grandes méharées sont innombrables. Innombrables, puisque moi, plusieurs années plus tard, j'ai été obligé de tracer l'itinéraire de l'ensemble de ce qu'il avait fait sur une carte. Et c'est là où je me suis rendu compte de l'énorme explorateur. Car, en fait, c'est un des derniers explorateurs du XXe siècle, au-delà d'être un savant multidisciplinaire. Moi, j'en revenais pas. Je veux dire, il partait de Tambouctou, il montait à chameau au mine de Tégaza, dans le nord du Sahara, vers le Hank, mauritanien et marocain, on dirait presque au Maroc, et redescendait à Tambouctou, comme si vous alliez acheter une boîte d'allumettes au coin de la rue. On est face à un personnage hors norme. au niveau du Sahara. D'ailleurs, bon, son frère Maximilien Vox l'appelait le fou du désert, mais je pense qu'il aimait beaucoup qu'on l'appelle le fou du désert, comme les nomades d'ailleurs l'avaient appelé le Majnoun, le fou, parce que c'était quelqu'un qui effectivement n'avait pas de limite au niveau de sa curiosité. Et surtout, pas de limite au niveau de des parcours sahariens qu'il a pu faire. C'est hallucinant.
En fait, je crois que ce que Théodore aimait vraiment quand il était dans le désert, c'est justement qu'il était loin des hommes. Et qu'il était loin de toute cette violence, de toute cette absence de beauté qui peut parfois être si cruelle hein, aux gens sensibles. Et il y avait aussi sûrement un autre élément qui lui plaisait, c'est ce dépouillement. Le fait que vous pouvez vivre avec rien. Vous apercevez en fait que vous avez vraiment besoin de rien. Et vous êtes vraiment à vous-même, pour le coup. Vous êtes vraiment à l'existence. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui plaisait beaucoup à Théodore. Et là, il n'avait rien qui l'empêchait de se consacrer à la géologie, à la botanique, à ses pensées de savant et à ses pensées d'homme aussi. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui en plus avait une foi vivante, donc qui était en dialogue. Dans le désert, il n'y a pas grand-chose qui vous arrête dans ce développement de la pensée. Ça, je crois que ça lui plaisait infiniment.
J'ai rempli ma vocation, c'est instinctif. Peut-être que j'aurais pu faire autrement, bien entendu. Mais on obéit à un certain nombre d'incitations. Le mot vocation est beau, d'ailleurs. Une vocation, c'est un appel, étymologiquement. Mais je crois que c'est un devoir de faire ce pourquoi on est fait, hein, au fond. C'est la parabole des talents, en fait, dans l'Évangile. Alors c'est aussi une grande responsabilité. Celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé à celui qui a beaucoup reçu.
Théodore Monod faisait partie d'une famille de protestants et de pasteurs depuis des générations, et il était voué de par sa famille à devenir pasteur. Mais tout de même, il a fait un choix très net, il a choisi d'être scientifique.
Il s'était dit qu'il commencerait par une licence de sciences et puis il ferait sa théologie après. Mais en réalité, quand il a eu sa licence de sciences, eh ben, il a continué.
Nicole Vray.
Il a continué en sciences, mais... ce que j'ajoute toujours, il ne s'est jamais défait, sinon de la théologie, mais d'une vie de foi intense. Donc il a été d'une certaine façon pasteur, lui aussi. Alors sa réticence peut-être à être pasteur était aussi son respect, son admiration, son amour profond pour son père et sa mère, bien entendu, immense affection pour ses deux parents, et pour son père, le respect du père théologien, du père pasteur, et il avouait qu'il craignait de ne pas être à la hauteur de son père. C'est vrai que le père a eu une importance considérable dans sa vie de croyant. Le père immense théologien du début du siècle, il a fabriqué l'idée du christianisme social que Théodore a repris et a vécu tout le temps, le christianisme social, voilà, ça, l'expression dit bien ce qu'elle veut dire. Il ne s'agit pas d'être chrétien d'un côté et d'être dans la société de l'autre, mais d'être chrétien dans la société et de lier la vie et la foi. Voilà. Et c'est ce moteur-là qui ne va pas lâcher Théodore de toute sa vie.
Les Monod, c'est pas une famille.
C'est une tribu.
Mais c'est même ce qu'on appelle au Sahara une tribu maraboutique.
Oui.
Tribu consacrée aux choses de l'esprit, etc. Oui, alors ça c'est très spécial aussi, parce que j'ai au-dessus de moi 5 générations de pasteurs en ligne directe. Alors non seulement ça, mais des mariages consanguins. J'ai 4 arrière-grands-pères, comme vous, monsieur Chancel. Vous avez 4 arrière-grands-pères, moi aussi. Mais moi, sur les 4, il y en a 3 qui sont frères. Alors ça, c'est très calé. Alors j'ai été nourri dans un idéal, un haut idéal spirituel, à la fois l'idéal évangélique et puis les prophètes d'Israël. Alors là, on respire l'amour de la justice d'abord. La justice. pour tout le monde, pour tous les êtres, pas seulement pour tous les hommes, pour tous les êtres vivants. La justice et puis la sympathie. La sympathie. Et puis, cette espèce de sentiment de l'unité des choses et des êtres à travers le cosmos, parce que c'est prodigieux. Il y a un poète anglais, Francis Thompson, a dit une fois, il n'y a que poète pour dire une chose pareille, celui qui cueille une fleur dérange une étoile.
La foi était la base de ce qu'il faisait. Quand il est tout petit, quand il est jeune enfant et qu'il joue, il joue à la poupée. C'est très bien de jouer à la poupée, mais il ne joue pas à la poupée. Il apprend les prières à ses poupées. Et puis, il a écrit des petites prières pour les fêtes de ses parents ou certaines fêtes familiales. Il ne se défait pas de l'empreinte chrétienne et protestante.
1917, il refuse de participer à une collecte pour l'aviation militaire. Déjà, Théodore Monod se dit indigné, révolté par la guerre.
Et voilà, dès son jeune âge, l'horreur de la guerre le domine, l'horreur de la violence, que ce soit donc la Première Guerre mondiale, puisque certains de sa famille y partent et y meurent. Seconde Guerre mondiale, bien entendu, l'horreur de Hiroshima et Nagasaki, et pour laquelle Théodore obéira à un jeûne de 3-4 jours, tous les ans au mois d'août, depuis 1945. Ce que je veux dire par là, c'est que non seulement il est contre la guerre, mais il témoigne. La guerre d'Algérie, il témoignera aussi avec Massignon. Il signera le manifeste des 121, comme vous vous souvenez. Et puis, son jeûne hebdomadaire sera en rappel de la torture qu'il refusait, bien entendu. Et donc, voilà, ce ne sont pas que des paroles avec Théodore Monod, ce sont des actes. Tout ce qu'il fait étant enfant, c'est aussi ce qui est frappant chez Théodore et qui, je trouve, se perd un peu, mais qui est dans beaucoup de grands personnages ou qu'il a rencontrés, ou les précédents, voire du XVIe siècle. C'est la fidélité à ce qu'ils ont compris et aimé. Ils l'ont compris enfant ou jeune, et ensuite c'est indélébile jusqu'à la mort.
Toujours prêt à protester, toujours prêt à se manifester. Quand il était invité au défilé du 14 juillet, il répondait au président de la République « Merci beaucoup de l'invitation, mais j'irai au 14 juillet quand défileront uniquement les civils, mais pas les militaires. » Antimilitariste, forcené, bien entendu.
Départ, je vous louerai. Et la grande aventure. Caravane qui, sur le sable humide de la plage atlantique, partiez au rythme souple et lent des dromadaires. Avec quel fièvre vous regardez disparaître, caravane. Dans le poudroiement doré des brumes sèches, attachez-moi même au rivage. Ah, caravane, suppliai-je, une fois au moins, prenez-moi.
Le démarrage va se faire à Port-Étienne, quand en 1922 il est muté au département des pêches coloniales d'origine animale, ça il aimait beaucoup le dire.
Jean-Marc Duroux.
Puisqu'en fait il est muté sur ces fameuses côtes de la Mauritanie, qui sont à l'époque encore incertaines au niveau de la sécurité. Il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup d'attaques des nomades contre les postes français. Et donc il est complètement limité dans ce petit village de cabanes qui est au bord de la mer. Il va tous les jours en mer, il étudie les poissons et comme il aimait à le dire toujours, en fait il est face à un océan liquide et derrière son épaule il y a un océan sableux. Et c'est vers cet océan sableux qu'il va se tourner. Et puis très vite, il va vraiment avoir un désir. Il est toujours accompagné, en plus de ça, d'un livre qui est Le Voyage du Centurion de Ficarri, qui est vraiment pour lui quelque chose de très évocateur, qu'il suit avec beaucoup de passion, qui relit, hein, puisqu'à Port-Étienne il y a beaucoup de distractions, surtout à l'époque. Et en fait, en la fin de son séjour, normalement, il devrait reprendre un bateau en direction de Bordeaux. Et là, il décide de partir. avec une caravane qui est montée d'ailleurs par les maires français en direction de Saint-Louis, c'est-à-dire à 800 km. Et là, Monod va partir de Port-Étienne, traverser l'ensemble de la Mauritanie et arriver à Saint-Louis du Sénégal. C'est sa première méharée et comme le dira son frère Maximilien Vox, ce jour-là, un méhariste était né. Et quel méhariste !
Cette première méharée qu'il va faire va être son coup de foudre, son révélateur, son... Voilà, ce après quoi les choses ne sont plus comme avant. Donc, vous voyez, ça a été vraiment une illumination.
Faites voir ces feuilles.
Ça, ils sont pas les mêmes. La graminée n'est pas banale.
Panicum. Comment elle s'appelle, celle-là ?
Panicum turgidum. Panicum.
Non, mais il y en a des centaines de panicum.
Oui, oui, enfin, il y en a un comme quelque chose.
Non,
c'est turgidum.
Est-ce qu'ils disent que ça sent bon ?
Non, il sent pas bon, celui-là. C'est Saint-Bopogone, Chenantus qui sent bon. Saint-Bopogone, c'est Y.
Moi, c'est celui-là qui m'intéresse. Saint-Bopogone, Chenantus, oui.
Voilà.
369.
Ancienne Andropogone, la Niger.
Comment vous faites pour vous rappeler tout ça ?
Oui, on y va.
Philippe Taquet.
Je crois, on peut citer, mais le nombre d'espèces récoltées, animales ou végétales, grâce à lui, il y a 32 espèces végétales nouvelles qu'il a récoltées, qui ont été nommées avec son nom, et 125 espèces animales nouvelles qui portent son nom. Par exemple, dans le Tibesti, il a récolté une plante qui reste d'ailleurs unique et qu'on a appelée la Monodiella, de Mono. Et tout le monde a essayé d'en trouver d'autres exemplaires depuis qu'il l'a récolté dans le Tibesti, un peu pendant la guerre. On n'a jamais retrouvé d'autres spécimens. Elle a probablement disparu du Sahara. Elle est dans les herbiers du muséum. Elle est d'ailleurs maintenant exposée dans cette petite galerie de botanique qui vient d'être réinaugurée récemment.
Au départ, Théodore Monod était ichtyologue.
Il s'est spécialisé dans l'océanographie. Et sa thèse de doctorat porte sur un petit parasite des poissons de l'estuaire de la Seine.
Un petit crustacé qu'il a découvert lui-même.
Oui, tout à fait. Mais il lui est arrivé dans la vie de découvrir beaucoup d'espèces, en effet.
Aussi bien végétales, d'ailleurs.
Végétales qu'animales. Et en effet, c'est un petit crustacé parasite qu'il a découvert, une natidée, et dont il a fait sa thèse de doctorat. Voilà.
Il collectait d'ailleurs au cours de ses pérégrinations dans Paris, il collectait des plantes, il cherchait une méduse, je crois.
En effet, au pied au quai d'Orléans, où il y a des escaliers qui descendent jusqu'au bord de l'eau, il a récolté des petites méduses d'eau douce, décrites. Oui, il a fait une flore de l'île Saint-Louis. Ah oui, c'était une curiosité insatiable. Et j'ai expliqué dans l'éloge de Théodore Monod, que j'ai prononcé devant l'Académie des sciences, que il dit lui-même dans sa notice qu'il était insatiable, comme Cuvier, Georges Cuvier, qui était un grand naturaliste aussi du muséum, qui a dit lui-même, a écrit même, que l'effet appelle l'effet. On en veut toujours davantage.
Novembre 1928, Théodore Monod, appelé sous les drapeaux, est affecté dans une compagnie saharienne dans l'oasis de Ouargla, en Algérie.
Là, Théodore arrive, et évidemment, avec les militaires dans une caserne, ça fonctionne pas terrible. Soyons très honnêtes, je pense que les officiers de l'époque comprennent le personnage et se disent « plus on l'éloigne, mieux c'est », parce qu'on sera jamais d'accord avec ce monsieur.
Il s'ennuie beaucoup.
Et il s'ennuie énormément, bien entendu. Mais il s'ennuie dans une caserne, vous rendez compte, Monod dans une caserne. Donc, il le mute dans la Draranet, qui est un petit massif montagneux au sud-ouest de l'oasis d'Insala, qui est un endroit très peu connu, en fait, à l'époque. Et Théodore va vivre le désert pur, dur, à cette époque, puisque, en fait, un sac de farine, quelques dattes, quelques chameaux, quelques chameliers autour, il reste dans un endroit qui est immobile, puisqu'il se passe rien, et il va en profiter, à ce moment-là, pour commencer ses recherches.
Il est déjà 5 heures du soir. La nuit va tomber. Le point d'eau est loin. Un moment plus tard, je me heurte à une formidable station de gravure libico-berbère en excellent état. Que faire ? Impossible de laisser passer de si beaux documents. Impossible aussi de remettre au lendemain le travail de relevé. J'arrête la caravane et commence la copie à 17h30. Et dans quelles conditions ? La nuit avec une lampe à carbure qui, comme par hasard, marche déplorablement aujourd'hui et sur une paroi verticale qu'il faut escalader dans la position du lézard plaqué contre un mur mais d'un lézard portant au bout des doigts, au lieu de ventouse, une planche à dessin. Vers minuit, j'ai terminé. À 2h30, je mettais le convoi en route. À 5h25, je lève le camp.
On est au début des recherches préhistoriques au Sahara en 27. Hein. Il n'y a pas encore le Tassilien Alger, le plus grand musée du monde à ciel ouvert de préhistoire, n'a pas encore été découvert. Il est découvert qu'en 1930. On sait qu'il y a des peintures, on sait qu'il y a des gravures, mais on n'a pas encore fait l'étude. On se doute qu'il y a eu une vie antérieure au Sahara qui n'était pas celle d'un désert, mais on en est encore qu'au premier balbutiement. Et Théodore va faire des relevés extraordinaires sur les peintures, les gravures de la Dranet. Il va les identifier, les dessiner et en ramener des documents si importants qu'il va en faire un livre à son retour. Il revient à Paris et là, il se marie avec Olga. Ils vont en 1930. Il se marie d'ailleurs avec son grand burnous rouge des compagnies méharistes, qui est un peu surprenant pour quelqu'un qui est anti-méharistes. Et il s'est fait d'ailleurs enterrer avec son burnous d'ailleurs de méharistes. Alors en 34, 4 ans viennent de se passer. Il s'est marié, les enfants. Il a beaucoup travaillé en laboratoire, mais son Sahara, ça le travaille. Il a envie d'y repartir. Et cette fois, il va y repartir, mais alors très sérieusement, puisque il part d'abord en Mauritanie. Là, il part seul, avec évidemment l'accord du muséum, et il commence ses recherches. Alors, la première des recherches qu'il a, c'est qu'il a entendu parler d'un capitaine qui s'appelait Ripper, qui en 1916 avait trouvé un débris de météorite et qui disait que les nomades avaient, dans le désert, à côté de Chinguetti, au sud de Chinguetti, avaient trouvé une météorite immense. Il l'avait amenée de nuit, il avait vu une montagne, il n'avait pas pu, ce capitaine n'était pas un spécialiste, il était revenu, mais cette légende, on peut dire, courait à l'époque. Théodore, qui a toujours aimé ce genre de choses, avec sa curiosité insatiable, il a une espèce de passion de quête du Graal, quand même. Hein. Toute sa vie, ça a été un peu ça. Donc, veut trouver cette météorite.
C'est une caractéristique de son caractère.
Ambroise Monod.
En effet, dans les grandes séries d'énigmes qu'il voulait résoudre, il y a la fameuse météorite de Chinguetti. Bien. Et donc, il fait des recherches, etc. Mais de guerre lasse, il abandonne ses recherches parce qu'il en prend d'autres, etc. Et quand il est à la retraite, il se dit, mais cette histoire de Chinguetti, il faut quand même la résoudre un jour. Donc, il s'engage dans 3 ou 4 expéditions pour retrouver la météorite de Chinguetti avec des méthodes de repérage empruntées à la NASA, à des grands organismes qui ont fait des survols territoriaux, etc. Et on croit qu'on va la trouver, etc. Et il se trouve que une des dernières expéditions, même la dernière, il a accepté que ce soit ma femme et moi qui l'accompagnons. Et donc, c'est la seule méharée que j'ai pu faire avec lui. Il s'est bien gardé, quand j'avais 16 ans, de me dire « Viens avec mes chameaux traverser le désert ». Ça m'aurait enthousiasmé au possible. Je serais maintenant méhariste, sans doute. Mais bon, il s'encombrait pas de ses enfants, en tout cas, et de sa descendance. Il avait beaucoup de respect pour son ascendance. Mais sa descendance, à part vers la fin de sa vie, il s'est encore demandé ce que c'était, ce que ça pouvait bien devenir. Et donc, il a, à ce moment-là, fait une expédition qu'il a conclue, même devant l'Académie des sciences, par la négative. Cette météorite dite géante de 50 sur 100 mètres, enfin, un truc incompréhensible, n'existe pas du tout. Voilà. Mais, dans les précédentes expéditions, alors la dernière, ça a mis fin à cette histoire, mais les précédentes, il est toujours rentré heureux de l'échec. C'était un peu intriguant quand même. Mais il a dit, non, on l'a pas trouvé, donc on repart.
Salima Ould Sleiman, guide de Théodore Monod.
Il a une connaissance de tout. Et c'est lui le premier qui s'est réveillé à Ambrosse le matin. Il se promène dans le groupe et chacun il le touche avec son bâton. Et il dit réveille, goum sali, c'est-à-dire debout, il faut prier. L'anim le fait, il regarde, il reste toujours debout, penché sur sa canne. Et puis, sur le chameau, il marche toujours devant. Une heure parfois, deux heures parfois. Et puis, il a aussi c'est qui? Il peut rester toute une journée sans boire ni manger, sauf. Si tu lui donnes, si tu ne donnes pas, il ne demande même pas. Ça, c'est son habitude. Et parfois, il souffre parce qu'il ne mange pas. Et parfois, il tombe par terre. Et quand il monte sur le rocher ou dans des dunes, et parfois, il glisse.
Cyril Monod.
La première fois qu'il a fait ce grand itinéraire des 900 km entre deux points d'eau, où on naviguait à la boussole, il n'y avait pas encore le contrôle par satellite, il s'est trompé et ils sont arrivés assez loin du point d'eau. Et pour les dernières marches à faire, pour ne pas flancher, il s'était attaché la main à la queue du dromadaire et il se faisait traîner comme ça, tellement il était épuisé. Je me souviens... Quand on le voyait revenir, il avait des lèvres extrêmement épaisses, gorgées de sang, cassées par le sel, pas par les vents de sable, les talons éclatés, qui recousait lui-même avec un fil pour que le sable ne pénètre pas. Mais ça, il ne le dit pas. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de souffrance physique quand on est dans une zone désertique et de souffrance morale quand on est tout seul ?
La mare est en cette saison grande comme une pièce moyenne d'appartement. Tout à coup débouche une centaine de moutons arrivant de la brousse, altérés et qui se précipitent tous à la fois dans le bain de sièges boueux, suant, soufflant, éternuant, urinant, crottant, dissolvant 15 jours de crasse dans ce fond de cuvette. C'est de cette sauce que nous avons rempli nos outres.
Là, il part en direction de Tambourtou et il va aller sur Taoudéni, il va remonter la grande caravane qui est quand même très au centre d'une région qui s'appelle le Tanezrouf, qui est c'est des paysages qui sont très difficiles, des grands plateaux, des grandes étendues assez vides, très peu de sable, beaucoup de vent l'hiver, il fait froid. Donc c'est pas de la rigolade et en été, il y a un soleil de plomb et il y a pas d'air et pas d'ombre. C'est des gens qui sont quand même très durs. Mais par contre, pour lui, elles sont intéressantes dans la mesure où il y a des gisements paléolithiques, néolithiques. Il y a une faune et une flore excessivement rares, mais qui a le mérite d'exister dans des régions aussi arides. Donc pour ça, c'est un intérêt. Il amène à la science quelque chose que, à l'époque, on n'a pas encore vraiment étudié. Quoi. Je veux dire, c'est une facette de la planète qu'il découvre, en partie.
Et il fait combien de kilomètres? Là, il parcourt...
Alors là, ça va être un truc absolument hallucinant. Il part de Tambouctou, il monte en direction de Taoudéni. De Taoudéni, il va à Tegaza. Je ne peux pas vous résumer l'itinéraire exact, parce que il faut une carte. Mais il remonte quasiment presque au sud marocain. Il redescend, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est 1500, 2000 kilomètres, dans tous les sens. Je veux dire, il accumule un nombre de kilomètres, de plusieurs milliers de kilomètres. Souvent,
il marche beaucoup.
Alors, il marche en permanence. Mais au bout du compte, au bout de 15 mois, il faut dire aussi qu'il est, depuis 15 mois, parti en Afrique. C'est-à-dire que sa femme ne l'a pas revu, ni ses enfants. Il n'hésite pas à partir un an et demi, voire deux ans, sans revenir à la maison. C'est quand même un cas de figure quand même relativement unique. Hein. Et à la fin de ce voyage, il ramène quand même avec lui... Pour vous donner une idée, 10 000 objets pour le muséum. 10 000 objets, ça veut dire des plantes, des haches néolithiques, paléolithiques, tout un tas de grottes de chameaux, de grottes d'Adax, des tonnes d'objets qu'il va falloir identifier ensuite pour le Muséum d'Histoire Naturelle.
Il aurait pu se faire assassiner quand il partait d'un Maraba al-Koubra pendant un mois, sans que personne ait la possibilité d'avoir la moindre nouvelle de lui, avec deux goumiers qui, eux, étaient armés et que lui, ne l'était pas. Il aurait pu se faire assassiner, abandonner. C'est incroyable. Et il a eu une veine inouïe, il est tombé sur une épouse hors du commun. L'épouse qu'il fallait à ce type d'homme égoïste, je le mets un petit peu entre crochets, égoïste, mais qui a été toujours victime de sa passion de connaître, de découvrir, d'inventorier, d'analyser. Et ma mère était victime de la passion de son mari, mais cette passion n'était pas pour elle.
L'absence de mon père était compensée par la présence lumineuse d'une femme très exceptionnelle. Je crois qu'elle a toujours aimé Théodore Monod, même fuyard, même partant, même régulé comme une horloge. Alors qu'elle aurait eu des tendances, on l'a bien repéré plusieurs fois, à sortir un peu, à aller dîner en ville, etc. Non, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de théâtre. Non, il y a la régularité de la vie. Mais quand il n'était pas là, cette femme, la femme de Théodore Monod, à chaque fois, auprès de ses enfants, légitimer l'absence. Légitimer l'absence, ça veut dire qu'au fond, le commandeur était présent. Sa présence voilà, était sensible. Ah non, lui, il a toujours continué son propre programme. Et c'est vrai, des caravanes qu'il pouvait conduire, c'est-à-dire que si on voulait, les gens voulaient s'arrêter, lui, il continuait. D'abord, un, c'est pas lui qui l'avait décidé. Donc là, déjà, ça ne se discute pas. Et puis, d'autre part, il ne faut pas perdre de temps. Donc, il avançait. Il fallait le suivre.
C'est ça. Le temps par rapport à quoi ?
Alors, c'est ça qui est étrange. Par rapport au temps qui passe, sûrement, peut-être vers un moment de sa vie par rapport au temps qui reste et aux œuvres qu'il n'avait pas achevées. Parce qu'il en avait encore pour deux siècles.
Isabelle Jarry.
Je crois qu'il n'était pas très à l'aise, oui, dans les relations humaines et... Et il savait pas très bien quelle distance adopter avec les gens. Alors les gens avec qui il était vraiment à l'aise, c'était ses collègues, ses confrères scientifiques. Là, il n'y avait pas de problème. Mais c'est vrai que par exemple, avec les Touaregs ou avec les indigènes qu'il pouvait rencontrer, je crois qu'il savait pas trop comment les aborder. Et le fait de pas avoir de terrain commun de discussion le désemparait totalement. Et ça, c'était quelque chose d'assez frappant. Chez Théodore Monod, il était quand même pas... Enfin, d'ailleurs, c'est quand on regarde les sujets de sa curiosité, on a les plantes, on a les cailloux, on a la géographie, on a les crustacés, on a les poissons, mais on n'a pas les hommes. Hein, les êtres humains, ça fait pas partie de son champ de recherche. C'était trop compliqué pour lui, je crois.
Jean-Marc Duroux.
Alors en 1937, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il va revenir, écrire de nombreux articles et surtout publier son livre Méharé. Méharé, voyage au vrai Sahara, exploration au vrai Sahara. Et ce livre est important parce que, d'abord, il le dédie, non pas comme à l'époque on peut le dédier à un général de l'armée ou à un grand monsieur, ou même à sa mère, il le dédie à son chameau, et à Sagarba, cette fameuse outre en peau. Ça choque un peu beaucoup de gens à l'époque en disant « mais il est complètement fou ». Mais ça montre la mentalité du personnage, avec qui a quand même beaucoup d'humour, qui ne se prend pas au sérieux. À l'époque, je pense qu'il se met pas en avant. C'est pas quelqu'un qui, comme aujourd'hui, dans certains cas, vous faites quelque chose de sportif, Lui, il est un explorateur, un vrai. Et il met la science en avant. Et dans ce livre Méharé, il décrit tous ses voyages. Et le fait de décrire tous ses voyages, il révèle ses itinéraires. Et même les militaires, qui à l'époque, attention, c'est dur de dur au niveau du Sahara, hein, les compagnies Méharé ne sont pas des rigolos, vont être ébahis par ce qu'il a fait. Tous les militaires reconnaissent que Théodore est un vrai grand saharien, un explorateur.
étapes, bivouac d'un soir en des lieux sans nom, qui ne nous reverront plus. Départs, ces éternels départs sans arrivée, qui sont trop la poignante image de notre voyage intérieur pour ne nous point déchirer l'âme. Fuir sans cesse à la surface d'un monde où les fleuves de Babylone, d'eau, de vent ou de poussière, tombent et coulent et entraînent, ô sainte Sion, où tout est stable et où rien ne tombe.
Il avait en plus deux autres dimensions qu'on sait quand on étudie sa vie. C'est un, il était administrateur d'une institution qui s'appelait l'IFAN, l'Institut français d'Afrique noire, qui a été un organisme d'exploration des connaissances africaines, multidisciplinaire, un peu à l'image du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, dont il était professeur. Il y a eu donc une tâche énorme d'administration, de sorte qu'il travaillait à l'administration le matin. Et il avait sur sa panque fermé à clé son bureau l'après-midi. Et il soupçonnait de ses collègues qui voulaient le voir absolument, qui regarderaient par le trou de la serrure. Et au dos de son fauteuil, il y avait « Ne me dérangez pour sous aucun prétexte, sauf s'il y a le feu ou si vous entrez dans les ordres ». Et la deuxième dimension qu'on peut associer à ça, c'est qu'il était enseignant. Donc, professeur au muséum, c'est quelqu'un qui reste au muséum à peu près 6 mois par an, en tout cas, et qui a des cours. Donc, il donnait des cours au muséum sur les techniques de pêche du Cameroun, sur la crevette dans le golfe du Tonkin, les sujets étaient variés, mais ça intéressait le monde entier. Là, c'était pas l'histoire de l'Afrique noire.
Comment Théodore Monod a-t-il vécu la Deuxième Guerre mondiale ? Nicole Vray.
Ah, il était à Dakar, directeur de l'IFAN, avec Olga et les enfants.
L'Institut français d'Afrique noire.
Et la guerre éclate et Olga était juive et tchèque. De la famille d'Olga Pikova, ne reste aujourd'hui que les enfants de Théodore et donc les petits-enfants, puisque toute la famille d'Olga a été envoyée à Térézine et a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Olga, elle, était à Dakar, donc elle a échappé à ce malheur. Et Théodore, lui, outre la direction de l'IFAN, tenait des émissions de Radio Dakar. Et il ne se privait pas, comme on peut le connaître, de dire ce qu'il pensait de ce qui se passait. Et un jour, on lui intime l'ordre de se taire. Et il répond « Très bien, je me tais, mais j'écris. » Et il a rassemblé toutes ses chroniques dans un volume qui s'est appelé « L'hippopotame et le philosophe », qui a été immédiatement censuré, bien entendu, et qui a été republié ensuite et qu'on peut trouver maintenant. Voilà.
Ambroise Monod.
Pour lui, et toute sa vie d'ailleurs, c'est un trait de caractère, si on se préoccupe de ses caractères, un de ses caractères, c'est d'avoir des convictions très ancrées et de ne pas y déroger. Quoi qu'il se passe, devant le gouvernement pétiniste de Dakar qui lui propose des affiches du maréchal pour mettre dans tous les bureaux, combien vous en voulez, lui demande-t-on, il dit le moins possible. Et quand il écrira, au moment du recensement des Juifs, aussi à Dakar, une lettre très étonnante et magnifique, il dira en effet, si on peut la lire, « Cher Monsieur B, c'est le secrétaire général du gouvernement, je n'ai pas l'honneur d'appartenir au même peuple que Jésus-Christ, Saint Paul, Saint Jean, Maïmonide, Spinoza, Mendelssohn, Einstein et Bergson, mais ma femme, plus heureuse, à ce privilège. Puis-je donc vous prier d'avoir l'obligeance de me faire tenir les imprimés nécessaires à son immatriculation sur votre nouveau registre ? Je vous en remercie d'avance et vous adresse mon meilleur souvenir. Les papiers ne sont jamais arrivés. »
fin du monde ou début, Genèse ou Apocalypse. La Terre, radeau ivre, plonge dans un chaos décoloré.
En 1953, il a 51 ans, c'est déjà un homme relativement âgé, qui a beaucoup baroudé. Une envie de désert lui reprend, et cette fois-ci c'est une grande envie, puisqu'il a un projet hallucinant, faire une première au long cours, comme il aimait le dire, aller de l'oasis de Ouaddane en Mauritanie à l'oasis d'Arawan au Mali. Soit un itinéraire dans une région qui s'appelle la Madjabat El Koubra, qui est la grande solitude, et c'est un voyage de 22 jours à chameau, 900 km sans point d'eau. Record maximum, puisque à l'époque, personne n'a battu le record des 900 km sans point d'eau.
C'est une région où personne n'ose s'aventurer.
Une fois de plus, on lui pose la question, mais pourquoi vous allez là-bas? Il n'y a rien. Et il répond, s'il n'y a rien, il faut le vérifier. Alors, quand il part à 51 ans, il réussit cette traversée, il arrive à Arawan. Mais à Arawan, il repart pas pour Tambouctou et puis il repart pas à Dakar. Non, il repart en Mauritanie. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il se refait 900 km dans l'autre sens. Pour vous donner l'état d'esprit du personnage, je veux dire, c'est quand même extraordinaire.
Pays impitoyable. Nous serons bientôt, nous aussi, à l'image de celui-ci, sans une plainte devant nos souffrances, insensibles à celles des autres.
Je crois que ce que Théodore aimait aussi beaucoup dans le Sahara, c'était que c'est un milieu sans corps. Votre corps disparaît. D'abord, vous ne pouvez pas faire attention à votre corps parce qu'il n'y a rien pour. Et puis vous lavez pas, vous nourrissez à peine, vous hydratez à peine, vous êtes obligé de sortir de votre corps. Et ça, je crois que c'était quelque chose qui lui plaisait profondément, l'aspect immatériel du désert, jusqu'à vous dépouiller de votre propre corps, ne pas vous écouter, ne pas faire comme si vous étiez juste un pur esprit dans le vide. Ça rejoignait quelque chose qui au fond, je pense qu'un de ses rêves, c'était peut-être ça justement, d'être détaché du matériel complètement.
Il aimait bien dérouter les gens, un peu brusque par moments.
Philippe Taquet.
Un peu sévère, mais aussi très drôle. Et lorsque j'étais directeur du muséum, il était à la retraite depuis longtemps, donc sur les fonds de la direction du muséum, je lui donnais quelques crédits pour qu'il puisse retourner une dernière fois régler le problème du mystère de la météorite de Shingeti en Mauritanie. Puis finalement, il s'est rendu compte, dans ses dernières missions, que c'était une légende. Il y avait des grès ferrugineux, mais il n'y avait pas l'énorme météorite. Et au retour de cette dernière mission, il est venu faire son compte-rendu de mission au directeur que j'étais, comme un jeune missionnaire. Et c'était très drôle. Alors je me suis mis assis à côté de lui. C'était dans le bureau de Buffon, au muséum, un bureau qui existe toujours, même sur le bureau même de Buffon, le meuble. Et on s'est assis l'un à côté de l'autre, et je croyais qu'il allait me parler de la météorite de Shingeti, d'abord. Il m'a dit, oh non, cher ami, est-ce que vous connaissez la dernière histoire drôle? Ah, je ne sais pas. Eh bien, quelle est la différence entre le plombier et Jésus-Christ? J'ai dit, je ne sais pas. Ben, on les attend tous les deux, mais on sait que le plombier, lui, ne viendra jamais. Alors voilà, ça, c'est Théodore Monod qui a mis bien désarçonner son interlocuteur. Mais bien sûr, il était une figure tutélaire. Et puis, ses engagements personnels après ont fait qu'il est devenu très célèbre, assez tardivement, d'ailleurs, finalement. Ses engagements en faveur, en contre le nucléaire, contre les corridas, contre la chasse, contre, etc., Super Phoenix. Donc, il a été très engagé, et là, il est devenu extraordinairement célèbre et très prisé des médias. Mais il en jouait très bien.
Ce qui est intervenu, et ce qui est très grave, d'ailleurs,
Théodore Monod, 1977.
C'est que je ressens depuis un certain temps la tentation de la désespérance. Et ça, pour un chrétien, c'est une chose extrêmement grave, parce que le spectacle du monde, le comportement de l'homme vis-à-vis de ses semblables, vis-à-vis des autres êtres vivants, cette torture qui est pratiquée dans une soixantaine d'États, peut-être d'autres, etc., tout ça vraiment, c'est pour quelqu'un qui a un haut idéal de l'homme, qui souhaiterait voir l'homme sortir de la préhistoire, qui souhaiterait voir l'homme s'hominiser une bonne fois pour atteindre ce que nous, je crois, être son destin véritable, eh bien, vous savez, c'est un spectacle déchirant, devant lequel, parfois, on est tenté de céder au désespoir.
Il a découvert auprès d'Albert Schweitzer qu'il ne s'agissait pas seulement de respecter la vie, comme on le dit très couramment, mais il fallait faire révérence à la vie. C'est une attitude extrêmement, je veux dire, pieuse presque. Et ça, il a porté cette conviction à peu près sur tous les terrains, maritimes aussi bien que géologiques ou botaniques, révérence à la vie. Et puis, la deuxième chose qu'il faut dire par rapport à ça, je crois, c'est que, pour lui, l'unité du cosmos, et ça, il le partageait avec Teilhard de Chardin, l'unité du cosmos, de la biosphère, est quelque chose de capital. Cette unité du monde, au fond, c'est pour ça aussi qu'il a été unitarien, chrétiennement, il avait fini sa vie comme président des Unitariens. Les Unitariens, ce sont les chrétiens pré-nicéens, qui donc avant le concile de Nicée, où on a statué sur la Trinité pour l'instaurer, vivaient avec une sorte de monothéisme pur, au sens Dieu, point. Et c'est vraiment l'esprit d'unité du monde l'a totalement habité, et c'est comme ça qu'on lui a proposé d'entrer dans une mouvance de type écologique avec René Dumont, et qu'il a été même dernier de liste d'une proposition de député européen écologiste avec lui, mais surtout pas premier de liste, et que finalement, il a été un déçu de l'écologisme politique, parce que pour lui, l'écologie, c'est pas le compromis, c'est pas la négociation propre au monde politique, c'est une affirmation de la conviction. Voilà.
Jean-Claude Nouette.
Il était très militant, je dois dire, et il fallait toujours se lancer dans des opérations un peu folles. J'avais tendance plutôt à le freiner un peu, pour manifester son militantisme et essayer de faire avancer les choses. Il voulait faire des sittings en plein Paris, il voulait s'enchaîner aux grilles de l'Assemblée nationale pour protester contre. Alors, je ne sais plus si c'était contre la chasse ou contre l'élevage en batterie ou contre la vivisection ou contre. Enfin, il voulait comme ça s'engager, montrer l'exemple de l'intérêt qu'il fallait porter au monde vivant en général. Sa phrase, c'était il combattait les gens qui disent vous feriez mieux de vous occuper de l'homme au lieu de vous occuper de l'animal. Mais pourquoi s'occuper de l'un ou de l'autre? On s'occupe de l'un et de l'autre. C'est un combat qui est le même combat pour soulager l'humanité et pour soulager le monde animal. Je crois que l'élan compassionnel était l'axe de son engagement. Et il a toujours fait ça. Ça a été surtout un humaniste, au sens très large. Et il englobait dans son humanisme viscéral le monde vivant. Il n'est pas allé jusqu'au végétal, mais il englobait le monde animal dans sa totalité. Et il l'a manifesté, effectivement, dans ce domaine particulier de l'expérimentation sur l'animal, dans le domaine de l'utilisation de l'animal dans ce qu'on appelle encore l'élevage, mais qui est la production animale intensive, qui n'est plus de l'élevage. Et il s'est manifesté, et il a pris position. La chasse, bien entendu, c'était un opposant vigoureux à la chasse. Et c'est avec lui, il a été un de nos tout premier militant dans cette association qu'on avait fondée en 76, qui était le Rassemblement des opposants à la chasse, et dont il est devenu le président peu d'années après.
Théodore Monod était végétarien, Jean-Claude Nouet.
Il était végétarien, il était surtout très rigoureux et abstinent à titre de pénitence pour marquer les grands crimes de l'homme. Il s'imposait des jeûnes réguliers. Il y a eu même des moments, pour son 90e anniversaire, on a fêté son 90e anniversaire au Grand, c'était à l'hôtel de la Monnaie, et ça tombait juste un jour de ses jeûnes. Et pendant que tout le monde, avec joie, trinquait à la santé des 90 ans de Théodore, Théodore restait dans son coin en disant « Monsieur Monod, prenez donc un verre de jeûne. » « Ah non, c'est mon jour de jeûne, rien. »
Il a dessiné ce très beau blason. C'est lui qui l'a dessiné. Et ce blason où il voulait rassembler toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité. Alors, le judaïsme, l'islam, la Chine, l'Inde et le christianisme.
C'est voilà. Une forme d'œcuménisme.
Une forme d'œcuménisme où il ajoutait aussi au centre de ce blason, qui est un très grand carré de soie qui est magnifique, de très belles couleurs tendres, il ajoutait au centre le signe de la non-violence. Et donc son blason était à la fois religieux et civil.
Il a toujours pensé que c'était pas le nombre qui faisait la conviction ou les bonnes raisons, mais il fallait pas qu'il puisse être écrit que personne ne se soit levé pour interpeller les autres sur les dangers qui nous menacent. Et il disait, c'est vrai, on dit que c'est utopique, mais utopique, ça veut pas dire impossible. Utopique, ça veut dire non encore advenu. C'est-à-dire qu'au fond, comme le disait aussi Teilhard de Chardin de Théodore Monod, vous êtes un homme de l'en haut et de l'en avant. Et je trouve que ce positionnement où on peut l'imaginer en partant solitaire et nomade sur des grandes traversées qu'il a faites et en même temps attiré par une réflexion métaphysique du destin des hommes, je trouve que ça le définit bien.
Théodore Monod, une émission de Françoise Esteb. Avec Jean-Marc Duroux, photographe, historien du désert, Isabelle Jarry, biologiste, écrivain, Ambroise Monod, théologien, sculpteur, Jean-Claude Nouet, professeur à la faculté de médecine de la Pitié-Salpêtrière, co-créateur de la Fondation des droits de l'animal, Philippe Taquet, paléontologue, président de l'Académie des sciences, Nicole Vray, historienne, essayiste, et les voix de Théodore Monod et de Cyril Monod, archives INA. Texte lu par Robert Milin. Extrait du film Le vieil homme et le désert de Karel Prokop. Attaché d'émission Laurence Genepin. Mixage Benjamin Vignal. Réalisation Lionel Quentin.
Cette émission, diffusée une première fois le 21 juin 2014, est disponible en podcast et réécoute sur le site de France Culture. Dans quelques instants, rendez-vous avec Étienne Klein pour la conversation scientifique. Samedi prochain, Une vie, une œuvre sera consacrée au musicien et poète Léonard Cohen.